Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, durant la première partie de nos émissions, nous allons continuer notre série destinée à répondre aux questions de nos auditeurs sur la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Jean-Marc sera de retour parmi nous pour nous expliquer son rôle dans l'œuvre missionnaire.
Bonjour Jean-Marc, nous venons d'annoncer le sujet de notre discussion. Aussi, je pense qu'il serait intéressant de commencer en expliquant ce qu'est l'œuvre missionnaire.
Bonjour à tous. Et oui, Yann, vous avez raison. Avant de quitter ses disciples pour monter dans les lieux célestes, Jésus leur confia une tâche, une mission à accomplir. Citons, par exemple, à ce sujet, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Ou bien, l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 46 à 48, « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. »
Ainsi, l'œuvre missionnaire consiste à annoncer le message de Jésus-Christ, à expliquer le sens de sa mort sur la croix et à raconter sa résurrection, en vue de faire des disciples et que l'Église croisse et s'étende sur toute la surface de la terre.
C'est exact, Yann. Et Jésus, aujourd'hui encore, confie cette mission à son Église. Aussi, devons-nous y être tous aussi impliqués que ne l'étaient les premiers disciples.
Ayant donc défini cette mission qui incombe à l'Église, il convient maintenant de se pencher sur le rôle du Saint-Esprit dans ce domaine.
C'est surtout à travers le livre des Actes des Apôtres que nous découvrons le rôle de l'Esprit dans l'œuvre missionnaire. En fait, ce livre relate la manière dont le message de l'Évangile s'est répandu à partir de Jérusalem, autour du bassin méditerranéen, puis jusqu'à Rome. Et à travers ces récits, nous constatons que l'acteur principal d'un tel miracle était bien l'Esprit de Dieu. Ce livre nous relate ce que les apôtres comme Pierre, Jean et Paul ont accompli. Mais par-dessus tout, nous constatons qu'ils n'auraient rien pu réaliser par eux-mêmes sans l'aide et la direction de l'Esprit. Aussi, il serait bon, dans un premier temps, de lire le verset 8 au chapitre 1 de ce livre. Jésus y annonce une promesse. « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. »
Et cette promesse s'est accomplie quelques semaines plus tard, à l'occasion du jour de la Pentecôte, car l'Éternel déverse son esprit sur les disciples de Jésus.
Oui, et la leçon principale que nous devons retenir est que c'est justement ce don de l'esprit qui permet aux disciples et aux chrétiens d'être des témoins courageux et efficaces.
Expliquez-nous cela davantage.
Souvenez-vous que le jour où Jésus fut crucifié, Pierre nia le connaître et que la plupart des disciples prirent la fuite et se cachèrent car ils avaient pris peur. Mais que se passe-t-il quelques semaines plus tard au moment où ces mêmes disciples furent animés par l'Esprit de Dieu?
C'est vrai, Pierre se mit debout devant une foule nombreuse et il proclama que ce même Jésus, crucifié il y a peu de temps, est le Seigneur de l'univers. Il ne semble ne plus être le même homme. Il ne connaît plus la peur.
Effectivement, et je l'affirme, c'est l'Esprit de Dieu qui a transformé Pierre, qui l'a totalement changé en le rendant courageux, lui et les autres disciples. et qui aujourd'hui encore nous transforme aussi. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans la vie d'un croyant, il aide à rendre témoignage de la personne de Jésus et il lui permet de le faire courageusement, en dépit parfois des critiques ou des dangers encourus.
Trouve-t-on des exemples dans les Actes des apôtres qui illustrent vos propos?
Prenons Actes chapitre 4, verset 31. Mais avant de le lire, il nous faut tenir compte du contexte. Peu de temps auparavant, les apôtres Pierre et Jean furent arrêtés, puis jetés en prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient proclamé le message de l'Évangile. Suite à leur interrogatoire, les autorités juives les relâchèrent pourtant à la condition que Pierre et Jean cessent de parler de Jésus. Les chrétiens se réunirent alors afin de prier le Seigneur et de connaître sa volonté face à une telle opposition. Mais quelle fut la réponse du Dieu vivant? Écoutons Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où j'étais assemblé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Donc, malgré le danger de se retrouver en prison, les chrétiens ont bravé l'interdit. Ils ont continué à annoncer la vérité au sujet de Jésus.
Oui, et je maintiens qu'un tel zèle ne devint possible que grâce à l'œuvre de l'Esprit dans leur vie. L'Esprit de Dieu leur donna le courage, il plaça dans leur bouche les paroles à proclamer.
Et ne trouve-t-on pas une promesse à ce sujet dans l'enseignement de Jésus?
Vous avez raison, Yann. Citons l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 18 à 20. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche.
Oui, nous retrouvons les mêmes pensées dans cette promesse. D'abord, la triste réalité est que la proclamation de l'Évangile suscite l'opposition. Mais l'Esprit de Dieu nous donnera du courage, de l'assurance. Il placera ses paroles dans nos bouches, toutes les fois que nous nous trouverons dans des situations difficiles. Mais Jean-Marc, quelle leçon devons-nous retenir?
L'avancement de l'Église ou du message de Jésus-Christ dépend de l'œuvre de l'Esprit, et non de nous-mêmes, car lui seul demeure le Maître. Or, l'Esprit nous invite à participer à un tel projet glorieux. Nous devons donc nous laisser conduire par lui, rechercher son aide par la prière, afin qu'il fasse de nous des témoins courageux et zélés et qu'il nous donne les paroles appropriées. Plusieurs fois, dans les Actes des apôtres, l'Église semble subir de très forts revers. Elle paraît sur le point de s'éteindre. Mais pourtant, grâce à l'œuvre de l'Esprit, elle parvient à surmonter obstacles et difficultés et elle va de l'avant. Et nous pouvons aujourd'hui avoir cette même confiance en l'Éternel. Il fera avancer ses desseins pour l'Église, contre vents et marées, grâce à la puissance de son Esprit.
Nous remercions Jean-Marc pour son enseignement clair et instructif.
Nous passons tout de suite à notre série de méditations bibliques. Hélène va lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 31 à 33. Ensuite, Robert nous fera part de ses réflexions.
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus.
Durant plusieurs émissions, notre invité Robert nous a fait part de ses paroles de Jésus sur l'inquiétude. Jésus désire apaiser nos cœurs.
Pour cela, il dirige nos regards vers l'Éternel, car il nous aime et il est digne de confiance. La dernière fois, nous avons appris qu'il y a cependant des sujets dont nous devons nous préoccuper. Je cède tout de suite la parole à Robert, qui va nous en parler davantage.
Merci Yann, et bonjour à tous. Jésus nous rappelle que notre préoccupation première devrait être, je cite, « le règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux ». Dans un premier temps, je vais parler de la deuxième partie de cette déclaration, c'est-à-dire de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Que signifie alors se préoccuper de ce qui est juste aux yeux de Dieu? Je pense qu'en fait, Jésus nous incite chacun et chacune à nous demander « suis-je juste aux yeux de Dieu ?» Et, il faut le souligner, notre destin éternel en dépend. En effet, ceux qui sont justes aux yeux de Dieu passeront l'éternité avec le Seigneur. Ils connaîtront le bonheur, la joie et la paix. Tandis que ceux qui ne le sont pas seront exclus de sa présence. Ils ne connaîtront ni joie, ni paix, ni bonheur, et ceci pour l'éternité.
Ainsi la question « suis-je juste aux yeux de Dieu ?» se révèle de la plus haute importance. Mais Robert, comment savoir si nous sommes justes aux yeux de Dieu?
La Bible nous révèle ce que l'Éternel attend de nous en termes de justice et de droiture. Or, lorsque nous considérons ces attentes, nous ne pouvons que l'avouer, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous manquons la cible, et non pas de peu, mais de beaucoup. Nous ne pouvons qu'en conclure que nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu. De plus, la Bible nous l'apprend. Il ne se trouve pas d'exception. Tout homme, toute femme a péché et se trouve privé de la gloire de Dieu.
C'est une conclusion fort pessimiste. Mais pourquoi Jésus nous demande-t-il de nous préoccuper de cette question, puisqu'il ne se trouve aucun juste et qu'aucun être humain ne peut remédier à cette situation?
Notre état peut sembler sans issue, mais fort heureusement, Jésus y a apporté une solution. Il pourvoit en nous secourant d'une façon extraordinaire. Aussi, si aujourd'hui nous sommes conscients d'être injustes aux yeux de Dieu, ne désespérons pas. Pourquoi? Parce que Dieu a œuvré afin que nous devenions justes à ses yeux. Non pas par nos propres efforts, ce qui relève de l'impossible, mais en acceptant celui qu'il a envoyé, celui qui a payé le châtiment engendré par nos fautes. Or, celui dont nous parlons est Jésus-Christ.
Merci Robert, et quel espoir merveilleux. Nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu, aussi notre préoccupation première devrait-elle être de vouloir sortir de cette impasse, de désirer devenir juste aux yeux de Dieu. Oh, la réponse se trouve en Jésus-Christ, et nous développerons cela davantage en profondeur la prochaine fois.
Merci Yann et merci Robert. Le moment est venu de vous dire au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.